4. Flot d'argent. Comme corps mort vaguant en haute mer, ébat des vents et passe-temps des ondes, j'errais, flottant parmi ce gouffre amer, où mes soucis enflent vagues profondes. Maurice Sève. Toutes ces belles manigances furent bien près de couler corps et biens au large de Mélesme. Il s'en fallut de peu que la Frivolitsa, privée de son arbre de mestre, chavire quand elle fut prise par une lame de travers. Le patron y aurait perdu son neveu, son amiral, son grand argentier, et plus fâcheux encore, 400 000 florins. Désastre naufrage, qui aurait asséché les finances du duc et ouvert une brèche dans la politique tchoudalienne. Par chance, la galéasse de l'amiral Faleri n'avait pas complètement versé quand elle fut portée au sommet de la vague. Elle tenta bravement de se redresser en dégringolant dans le creux qui suivit. On n'était pas tiré d'affaire pour autant. Le navire avait perdu son grand mât, une partie de ses avirons et quelques gabiers. Il avait embarqué une énorme masse d'eau qui clapotait dans la sentine et jusqu'aux genoux de la chiourme. Il enfonçait au milieu de la mer bouillonnante comme un œil gras dans la soupe. On était bel et bien en train de sombrer, et on le savait tous. La panique se levait dans les cœurs de la troupe, de l'équipage et des rameurs, aussi puissamment que la nouvelle vague qui arrivait sur nous. Deux gaillards sauvèrent alors la situation. L'amiral Céleste Faleri et votre serviteur. Il faut reconnaître un mérite au vieux Faleri. Malgré ses loyautés versatiles, son faible pour les petits garçons et ses si polyphoniques, il en avait une sacrée paire. Quand il réalisa qu'on avait toujours la quille dans la flotte mais qu'on risquait de la voir en l'air dès la prochaine cascade, il garda la tête froide. Ce fut peut-être le seul des 400 et quelques vénards qui dansaient stap-cul à ne pas céder à la stupéfaction ou à l'effroi. En tout cas, ce fut le premier à réagir. Le tillac penchait encore de façon improbable. Des centaines de milliers de pièces d'or rigolbochaient plus joyeusement que jamais en roulant dans l'autre sens. Et le navire grinçait de toutes ses œuvres vives sous l'assaut de forces contraires quand il se mit à hurler. Il vociféra des ordres que j'étais bien incapable de piger, vu qu'ils étaient braillés dans ce sabir de marin auquel je comprenais que chi. Malade, rincé, frissonnant, terrifié, je m'accrochais désespérément au garde-fou qui dominait la coursille. Cependant, malgré mon état avancé de liquéfaction, je saisis que quelque chose tournait vraiment mal. Sur le pont, tous les marins partageaient mon hébétude. Sur les bancs de nage lessivés, les rameurs s'accrochaient déjà à leurs avirons comme à des planches de salut. Sur le gaillard avant, les phalangistes qui n'étaient pas passés par-dessus bord rentraient la tête dans les épaules en attendant le prochain déferlement. « Exécution ! Exécution !» s'égosillait l'amiral. Mais seuls lui répondaient les hurlements du vent et le grondement des vagues. En un éclair, malgré ma cervelle commotionnée, je sus que si personne ne se bougeait les miches, on allait tous boire la tasse. Il fallait faire quelque chose. Et moi, précisément. J'entravais que dalle à ce que chantait le pacha. Alors tant pis, je fis quand même quelque chose. Je fis le seul truc que pouvait accomplir un ourdé dans mon style qui ne servait à rien sur un sabot. Je lâchai ma rambarde. Ouh ! La glissade sur ce plancher de travers qu'inondait l'eau glaciale. Et je tombai quasiment dans les bras d'un quartier-maître qui conchiait ses chausses. Dans un équilibre chancelant, j'empoignai un de mes couteaux et j'ouvris la gorge du matelot d'une oreille à l'autre. J'eus le temps de rugir « Exécution, bande de lofs !» avant qu'un tangage brutal ne nous fasse soudain dinguer en arrière, moi, mon surin et mon mataf égorgé. Mais j'avais apporté le coup de canif décisif. Cesarino et le supracomite se mirent à leur tour à brailler « Exécution, exécution !» bientôt repris en cœur par les enseignes et les argousins. Et comme s'ils se libéraient d'un sortilège, tout l'équipage se remit en branle. C'était heureux. Parce que j'avais glissé bras-dessus avec mon trophée, jusqu'au fond du carrosse, dans une cabriole un brin leste qui ruinait mon autorité. Privé d'un de ses mâts et de quelques avirons, en partie inondés, la galéasse était terriblement lourde à manœuvrer. L'équipage ne parvint pas à remettre l'étrave tout à fait face à la nouvelle déferlante, mais y parvint presque. Cette fois, ce fut le gaillard d'avant qui fut soulevé, pendant que le château de poupe paraissait prêt à s'engloutir. Le mouvement de bascule me débarrassa fort opportunément du guignard que je venais de saigner, mais faillit aussi me faire passer par-dessus bord. La plaisanterie aurait été dure à avaler. Je venais de sauver à peu près tout le monde quand même, sans parler de l'or du podestat. Je dois en convenir, il fallut que tout ce que la frivolette zacontée de Braille mette du sien pour qu'on tire nos hôtes ce bouillon. On passa une nuit épouvantable. Un essorage au battoir, une plongée dans un enfer brutal, glacial, affreusement obscur et convulsé. Le navire craquait de toutes ses membrures et paraissait plus troué qu'une passoire tant il embarquait de jus. La chiourme souqua au-delà de l'épuisement pour nous maintenir face à la tempête. En s'éclairant de pauvres falots, régulièrement mouchés par les rafales et les paquets de mer, le Calfa et ses aides charpentiers colmataient à la diable les voies d'eau qui s'ouvraient à une cadence désespérante. Les phalangistes, leurs officiers et le fringant ambassadeur en personne écopaient, barbotant jusqu'à la ceinture et accrochés au banc de nage quand le bâtiment se cabrait. La grisaille hostile du petit jour nous trouva en train de giguer sur une mer toujours hargneuse, mais moins démontée. Cette aube teigneuse, encore balayée de rafales et d'embruns, révéla un équipage de spectres grelottants à tordre et la goutte au nez. La vue portait désormais davantage et ne nous révéla rien de très réjouissant. Au sud, l'horizon était barré par la muraille ébréchée des falaises de Mélesme. Le littoral était encore à bonne distance et la roche comme les prairies se fondait dans un lointain bleuâtre, mais la mer qui baignait ce rivage écumait furieusement. La côte lançait ses hauts fonds et ses récifs traîtres jusque fort loin au large, et on pouvait même voir des vagues rejaillir et baver sur des brisants à quelques encablures. « Sommes-nous proches de Caméliogre ?» demanda l'amiral. « Je n'en ai pas l'impression, » répondit le supracomite d'Aneggiatello. « La côte est trop découpée. Nous sommes encore à la pointe nord des Maroises. Dans ce cas, le feu que nous avons aperçu hier soir aurait pu nous perdre. » Le froid me donnait une tremblote si sévère que je ne pouvais pas frissonner davantage. Mais je ne m'en sentis pas moins dans mes petits souliers. Don Celeste venait d'édulcorer les faits. Des charognes de naufrageurs avaient essayé de nous drosser contre ces escarpements côtiers. Nous serions-nous fracassés dans ces rochers, personne n'en serait sorti vivant. Il existait en Bromel une vieille coutume féodale, le droit d'épave, qui poussait parfois certains petits seigneurs impécunieux à donner un coup de pouce aux éléments. Et encore, il s'agissait de l'hypothèse la plus rassurante. Il était autrement inquiétant d'imaginer que des exilés tchoudaliens, avertis que le trésor destiné au couple ducal allait passer au large de Mélesme, avaient pu tendre ce traquenard. Le plus préoccupant pour l'heure était de découvrir un horizon marin déserté. L'escadre avait été complètement dispersée par la tempête. Nous étions seuls sur ces vagues mauvaises et sous ce ciel chagrin. Qu'était devenu le reste de la flotte? Avait-elle contourné l'île et fui sous l'ouragan vers les Angades ou vers l'anse de Bromel? On pouvait craindre que certaines galères se soient brisées sur les récifs de Mélesme. On pouvait aussi espérer que la plupart aient pu gagner l'abri de Caméliogre ou de Havne, plus loin sur la côte méridionale. L'un dans l'autre, le problème restait entier pour la Frivolezza. Avec son équipage éreinté et ses œuvres vives percluses d'avarie, la galéasse amirale se retrouvait terriblement isolée et vulnérable, chargée du trésor dont j'avais la très inconfortable responsabilité. Nous étions désormais à la merci du moindre pirate en goguette. Il était vital de retrouver notre escorte au plus tôt. Mais j'eus beau tarabuster l'amiral sur ce sujet, assez mollement, il est vrai, vu ma petite forme, je me fis renvoyer dans les cordes. La Frivolezza enfonçait trop, la chiourme était claquée, les charpentiers ne savaient plus où donner de la tête pour consolider leur réparation de fortune. Céleste Faleri fit mettre en panne afin de radouber la coque et de laisser les hommes récupérer quelques forces. De toute façon, il ne tenait pas à donner l'impression de m'accorder une oreille trop complaisante. Mon coup de couteau salutaire avait un tantinet terni mon image aux yeux de l'équipage. Encore vilainement balancé par la houle, on resta donc en rade. Dans le fougon, le coq s'activa pour rallumer ses feux et cuire double ration de soupe de fèves. Le calfa et ses gars, suspendus le long de la carène ou barbotant à fond de cale, colmataient le bordage à une allure désespérante. Les gabiers larguaient les dernières drisses de l'arbre de mestre et remettaient de l'ordre dans le gréement du trinquet. Ces rafistolages devaient rendre sa capacité de voguer à la galéasse pendant quelque temps, mais ce gros bâtiment, déjà plus lourd que les galères ordinaires, serait compliqué à manœuvrer tant qu'on ne l'aurait pas mis en cale sèche. Vers la mi-journée, le soleil commençait à jeter quelques éclaircies maussades sur les flots, quand un gabier jeta son cri depuis l'arbre de trinquet. Il venait d'apercevoir un navire, assez loin sur l'horizon. Depuis le pont, il nous fallut quelque temps pour le distinguer à notre tour. C'était un bâtiment long et bas sur l'eau, qui ressemblait plus à une galère qu'aux naves pansues de Brommel. Son gréement paraissait avoir été éprouvé par la tempête, mais il avait gardé ses deux mâts. Pendant un moment, il parut passer au large, en suivant un cap sud-sud-ouest qui, d'après le supracomite, avait la baie de Camélogre pour probable destination, mais au bout de quelque temps, il entreprit de virer dans notre direction. Par précaution, Céleste Faléry ordonna que chacun regagne son poste de combat. Tout le monde espérait que ce vaisseau appartenait à notre escadre, mais il était encore trop distant pour qu'on puisse le reconnaître. De loin, les chébecs récyniens étaient difficiles à distinguer d'une galère, et certains navires de l'archipel commerçaient avec le duché. Ce pèlerin-là ressemblait pourtant bien à un navire de guerre sorti de nos arsenaux. Mais un équipage de forbans stipendiés par les Surmatici ou les Coronazione pouvait très bien l'infester. La Frivolezza aurait représenté une belle prise pour des exilés, même s'ils ignoraient ce qu'elle transportait. Après l'ouragan, on pouvait redouter un second service. J'en étais dégoûté d'avance, car mon expérience de la guerre en mer était absolument détestable. Aussi le soulagement fut-il général quand un mousse reconnut les couleurs de ce vaisseau. Sur ses flammes, il portait les trois florins de Tchoudalia et sur son étendard de bataille, le nœud coulant du régiment Casahorca. Cette galère appartenait bien à notre escadre. Aussitôt, un tumulte d'appels roula sur les flots pendant que les hommes agitaient chapeaux et bonnets à bout de bras. Bizarrement, je n'éprouvais pas de réel réconfort, sans bien comprendre ce qui m'inspirait cette défiance. Peut-être venait-elle de ce que l'autre navire, qui voguait à présent droit vers nous, pointait son éperon vers notre coque, ce qui lui prêtait une allure menaçante. « Je reconnais ce bâtiment », finit par dire l'amiral, sur un ton partagé. « C'est la Sfacciata ». Il échangea un coup d'œil circonspect avec Cesarino, pendant que je marmonnais un juron ou deux dans ma barbe. La Sfacciata était la galère armée par Dilettino Schernitore. Au cours de l'hiver, sa seigneurie Dilettino Schernitore s'était fait un peu tirer l'oreille par le Podesta avant d'accepter de représenter la République auprès de la cour de Brommel. Comme l'avait jadis pressenti son défunt père, le sénateur Ostina Schernitore, Dilettino n'était qu'un branlotin dont les seuls talents étaient de jeter son nom au ruisseau et sa fortune par les fenêtres. Hormis les fêtes, pour lesquelles il se prodiguait sans compter, il n'accordait guère d'intérêt aux obligations dues à son rang. Un aussi long voyage que celui de Brommel l'assommait par avance, et il avait invoqué, avec une lucidité dépourvue d'amour-propre, qu'il ferait un ambassadeur tout à fait déplorable. Toutefois, le jeune Schernitore n'avait pas assez de suite dans les idées pour résister longtemps aux sollicitations du patron. Surtout lorsque les raisons invoquées pouvaient remonter jusqu'aux circonstances assez troubles de la mort de Justo Schernitore, feu le frère aîné de notre gentil fêtard. Dilettino avait donc sacrifié au devoir de sa charge, accepté en boudant de faire la commission à leurs altesses ducales, et empocher sans barguigner le prêt de 10 000 florins que Leonide Ducatore lui avait consenti à prix d'amis. Il en avait aussitôt dilapidé une bonne partie pour affréter sa propre galère, peut-être de crainte de frayer de trop près avec moi pendant la traversée. Il est vrai qu'il avait quelques raisons de m'en vouloir, dont la mort d'un mignon et la dénonciation de son paternel, que je lui avais naguère extorqué de façon expéditive. Personnellement, j'avais été soulagé d'apprendre que le gommeux ferait barque à part. Il m'aurait été doublement pénible d'être malade en compagnie de ce dégénéré et de ses parasites. Malgré leur irréprochable politesse, je crois que l'amiral Faleri et l'aimable Cesarino partageaient mon sentiment. Ou du moins l'avaient partagé. Jusqu'à ce jour où la Sfacciata fut le seul navire de l'escadre à nous rejoindre en mer. Si les soudards et les marins manifestaient bruyamment leur joie de retrouver l'un des nôtres, la température refroidissait sur le château arrière. Sans qu'on se soit donné la peine de formuler un mot, Céleste Faleri et Cesarino Rasicari partageaient avec moi le même malaise. Surtout en voyant ce rostre qui fendait les vagues tout droit vers notre carène rafistolée. Sur ce navire, combien y avait-il de phalangistes loyaux à la République? Combien d'Ilettino avait-il embarqué de clients? Combien d'aventuriers prêts à verser dans la haute trahison pour se couvrir d'or en ralliant les bannis? L'amiral était sur le point de renvoyer tout le monde au poste de combat, quand enfin la Sfacciata vira afin de nous présenter son flanc hérissé d'avirons. La galère semblait globalement en bien meilleur état que notre galéas. Le supracomite, qui s'y connaissait mieux en navigation qu'en barbotage curieux, émit avec le plus grand sérieux une proposition candide. « Je ne vois pas de grosse avarie sur la Sfacciata. Il serait plus sûr d'y transborder les coffres. » Manifestement, Danegiatello ne comprit pas nos mines constipées. Céleste Faleri éluda sagement cette sottise. Perdre une seule de ces caisses pendant le transfert nous coûterait aussi cher qu'un naufrage. Je n'ordonnerais ce transbordement qu'en dernière extrémité. Veillons plutôt à consolider la Frivolezza pour qu'elle puisse voguer jusqu'au prochain mouillage. Sur le château arrière de la galère, je venais d'apercevoir le sénateur Schernitore au milieu de ses officiers. Outre le patricien décavé, je reconnus quelques-uns de ses comparses, comme cette fiotte de Ronzino, dont j'avais naguère sérieusement ébréché le sourire, ou cette crapule de Bonito Scheggia, qui avait tenté de me planter sur le toit de l'hôtel de la Monnaie. Le plus vexant pour ma pomme, c'était de constater que ce ramassis de tentouse sortait assez pimpante de la tempête. Même Dilettino Schernitore, cette fin de race décadente, avait conservé le pied marin et se fendit d'une révérence ironique à destination de Cesarino et de l'amiral. Quant à Bonito Scheggia, il m'adressa un joyeux coucou de la main, comme s'il était ravi que la mer lui ait épargné un vieil ennemi. Ce fut dans ce climat de bonne camaraderie que les deux bâtiments mirent le cap sur Camélioghre. On atteignit le port en début de soirée, en ne se fiant qu'à demi au fanal allumé sur la tour réale qui dominait la grève. Située au fond d'une baie abritée, Camélioghre est une escale modeste mais très fréquentée. L'un des deux mouillages les plus sûrs de Mélesme. La bourgade aurait pu devenir rapidement prospère sur une côte moins menacée. Mélesme, la plus septentrionale des Maroises, forme une étape tout indiquée pour le trafic entre les ports continentaux du Duché et Tchoudalia ou l'archipel de Récine. C'est aussi la plus grande et la plus fertile des îles, qui jouit d'un climat assez doux, aussi agréable que celui du comté de Belle-Estance. Tous ces atouts, en attisant les convoitises, avaient valu à ce coin de pays plus de misère que d'opulence. Il suffisait de voir les tours de guet qui ponctuaient çà et là le littoral, pour comprendre que la mer ne lui amenait pas que d'honnêtes naves de commerce. Des raïs de Récine, des écumeurs tchoudaliens, voire des forbans venus des angades voisines, tentaient régulièrement des coups de main contre cette riche terre que le duc privé d'une flotte suffisante par plaie d'argent ne parvenait pas à protéger efficacement. Les insulaires se vengeaient de ces rapines avec des feux de naufrageurs, en se racontant que tout ce qui croisait au large de leur île avait forcément une voilure de pirate. Pour ajouter un peu de sel à cette saumure, Mélesme était morcelée en petits fiefs aigris par d'inextricables brouillis familiaux. Toute cette noblesse ilienne prêtait poliment hommage au duc, mais dans les faits, s'affranchissait de sa lointaine justice et s'écharpait pour un chemin creux, un coin de tourbière ou un arpent de prairie. Autant dire qu'on menait une existence assez rugueuse dans cette belle contrée, si joliment alanguie sur la Grande Bleue. Une dizaine de navires avaient trouvé refuge dans les eaux calmes de Camélieogre. Au milieu de cette flottille disparate, on eut la bonne surprise de retrouver deux galères de l'escadre. Nos équipages firent légade, et l'amiral envoya Danegiatello présenter ses respects au noble haillon local. Céleste Faleri décida de faire relâche quelques jours, dans le but de consolider la Frivolezza et d'attendre d'autres bâtiments de notre escorte. Faisant fi de toute prudence, Dilettino Schernitore et ses comparses débarquèrent dès le premier soir pour passer du bon temps dans le quartier des quais. Il ne devait pas y avoir plus de 3 bouches borgnes dans ce bled miteux, mais on pouvait faire confiance à sa seigneurie Schernitore pour faire la tournée des rades, y jouer gros jeu et écluser les pires casse-poitrines. S'ensuivit l'inévitable. Dès le lendemain de notre arrivée, le bruit que la galéa Samiral transportait une montagne d'or courait le patelin et tous les navires à l'ancre. Autant dire qu'on écourta l'escale et qu'on mit les voiles au bout de 2 jours, avec une galéa certes retapée de briques et de broc, mais toujours privée de grands mâts. Céleste Faleri prit avec philosophie les incartades de son collègue. Il plaisantait que les galères qui ne nous avaient pas encore rejoints n'auraient aucune difficulté à nous suivre. Cette indulgence n'avait de civil que la grimace. Sa seigneurie Faleri, en bon marin, sentait le vent tourner et avait certainement compris que le podestat méditait de pousser Dilettino à la faute. Avec une cautèle onctueuse, Don Celeste laissait donc l'autre s'enferrer dans ses bévues pour mieux le perdre quand l'occasion se présenterait. Ce fou de Dilettino avait aussi rapporté de ses bacchanales une nouvelle sinistre. À ce qu'on disait sur les quais, un de nos bâtiments avait fait naufrage au nord de l'île. En d'autres circonstances, l'amiral aurait envoyé une galère pour vérifier cette rumeur et secourir les survivants. Mais nous n'avions plus que 4 navires de guerre pour convoyer la dot du Cal. Céleste Faleri sacrifia donc le vaisseau échoué avec des plaisirs, mais sans grand état d'âme. En contournant Mélesme par l'ouest, on eut en revanche la chance d'être rejoint par 2 autres galères de l'escadre, qui avaient trouvé refuge dans le petit port du Havne. Ce renfort nous évita sans doute de gros désagréments, car alors qu'on abandonnait l'île dans notre sillage, on fut pris en chasse par 2 voiles. Mais ces braves gens manquaient d'estomac et furent intimidés par la supériorité de notre flottille. Les navires nous suivirent de loin pendant quelques heures, avant de changer de cap quand on commença à deviner la ligne bleuâtre de la terre sur les horizons. Il nous fallut 2 bonnes journées de navigation pour rallier Longomore depuis Mélesme. Il est vrai que les officiers ne forçaient pas l'allure pour ménager la chiourme et les réparations des galères. Cette vogue prudente m'épargna les vomissements les plus cataclysmiques, même si je n'échappais pas aux nausées ni aux étourdissements. À ces agréments, j'ajoutais le plaisir de m'être mis à dos tout l'équipage, et je ne me réjouissais pas particulièrement d'arriver bientôt sur le plancher des vaches, vu la façon dont je risquais d'y être reçu. Je promenais donc un œil morne sur le paysage, plus par mesure prophylactique que par contemplation mélancolieuse, pour essayer d'oublier mes haut-le-cœurs. Nous étions à présent entrés dans l'anse de Bromel. Nous naviguions cap sud-sud-est vers le fond de ce vaste golfe où se jette le Vernobre. Il nous fallut longer pendant 1 journée et demie les grèves de Belle Estance. La côte, d'abord verdoyante et onduleuse, s'abaissa de plus en plus à mesure qu'on approchait de notre destination. Comme dans les eaux qui baignent Tchoudalia, on devinait qu'on approchait d'un grand port à la multiplication des voiles dont étaient mouchetés les flots. Au milieu du menu fretin des barques de pêche, roulaient les coques rondes des caracs et des ourques, majestueuses comme des baleines. On découvrait aussi des coques et même des galets archaïques, probablement arrivés des Angades ou de Vikingsburg. Quelques tartanes plus exotiques, en provenance de l'archipel de Récine après un long périple, fuyaient éperdues devant nos pavillons et nos rostres. Le littoral étirait ses plages de galets grisâtres, sommet de prairies où de loin en loin des hameaux faisaient le dos rond sous le vent du large. Au-delà, les nuages s'engouffraient sur une plaine aussi vaste que les horizons marins. De Longomore, on apercevait d'abord un fouillis urbain, largement étalé en bord de mer. Deux bâtiments massifs s'en détachaient en avant-garde. C'était tout d'abord le temple du Resplendissant, édifié à l'extrémité d'un long môle fortifié. Il semblait jaillir des flots. Son fondement puissamment bastionné parachevait le brise-lames, mais au-dessus de la plateforme crénelée s'élevait la tour réale, dont l'architecture s'élançait aérienne jusqu'à culminer en une flèche de pierre. Chaque angle de la tour s'ornait d'un clocheton à colonnettes où brûlait un brasier du dieu. De nuit, les marins reconnaissaient de loin Moreuk, le port de la ville, à cette couronne de lumière suspendue au-dessus des abîmes liquides. Un peu en retrait, mais juste en bord de mer, l'échine anguleuse du château de Mordune se détachait sur le ciel. Bâti sur une courte falaise, il n'en apparaissait pas moins menaçant, car il surmontait le seul relief de cet horizon ouvert. Ses remparts massifs et ses tours trapues s'enracinaient dans une roche sombre, toute baveuse de ressacs. Quelques quartiers se serraient à l'ombre de cette forteresse, mais la plupart s'éparpillaient le long de la grève, comme le chargement d'une charrette renversée. Pour nous autres, habitués à vivre dans l'amphithéâtre majestueux de Tchoudalia, avec ses gradins palatiaux tout illuminés de marbre et de pierres blondes, Longomore apparaissait comme un taudis grouillant et vermoulu. Débarcadère branlant, ponton inachevé et estacade à moitié engloutie s'accrochaient à un rivage mal stabilisé par quelques quais maçonnés dont certains menaçaient ruine. Ce littoral était encombré par un amas de pêcheries, de hangars, de cales sèches et de tavernes mélangées à des bicoques bricolées contre des vestiges plus anciens. Ce Capharnaüm n'offrait même pas un front de mer au regard, car il était troué de chenaux. Longomore étant bâti sur le delta du Vernobre, la ville occupait plusieurs îles à la jonction entre le fleuve et l'océan. Certains îlots, formés d'alluvions récentes et exposés aux grandes marées, restaient des terrains vagues où gisaient des barques retournées et séchaient des filets. D'autres îles, en revanche, croulaient sous des constructions si serrées qu'elles débordaient sur les eaux en fouillis de pilotis. Cet étalage de désordre se révélait trompeur. Longomore était une cité prospère, peut-être la plus riche de Bromel. Depuis l'époque du vieux royaume, ses marchands et ses armateurs avaient toujours formé les partenaires et les concurrents de nos maisons de commerce. Tandis que les seigneurs bromalois s'endettaient auprès de ses usuriers pour leurs fêtes et leurs guerres. Dans cet amoncellement anarchique de quartiers à demi lacustres, se dressaient de hautes et luxueuses demeures, hôtels de grands négociants infiniment plus puissants que bien des maisons de vieille noblesse. Cesarino comptait bien rendre visite à quelques-unes de ses riches demeures, sitôt arrivées, pour traiter des affaires privées de son oncle. L'amiral Faleri fit mouiller nos navires à un demi-mille des quais. Bien qu'elle ne soit qu'une avant-garde diminuée de la flotte envoyée par la République, Céleste Faleri mesurait combien l'arrivée d'une escadre de 6 galères de combat pouvait paraître menaçante. Il décida de se faire porter aussitôt à terre, en compagnie du jeune ambassadeur, pour rassurer les échevins de la ville et les officiers ducaux sur la nature de ses intentions. Le pacha voulait aussi négocier au plus vite les réparations en cale sèche de la Frivolezza. Quant à Cesarino, il n'estimait pas impossible que la cour de Ganelon ait fait étape à Longomore pour atteindre ses renforts tchoudaliens. À tout le moins, il espérait que le duc y avait envoyé un émissaire pour guider l'ambassade jusqu'à son lieu de villégiature. L'idée de devoir bientôt balayer le sol de mon chapeau devant la duchesse Clarissima ne m'enchantait guère, surtout en me trouvant encore mal remis de notre petite régate. Lorsque les patriciens me proposèrent de débarquer avec eux, je déclinai l'invitation au motif qu'il fallait garder un œil sur le trésor. L'excuse était imparable, et Cesarino eut même un mot pour me plaindre d'être ainsi enchaîné à la galéas. Diletino Schernitore, quant à lui, ne se fit pas prier pour se joindre à cette noble délégation. Escortés d'officiers et de clients, les trois Rupins nous quittèrent pour présenter leur civilité aux grands marchands et aux prévôts ducaux. Ils y furent fort occupés, car on ne les revit pas de 2 jours. Je ne doutais pas que ces puissants personnages aient été reçus fastueusement. Je doutais encore moins de la façon dont cela avait terminé pour Diletinos Kernitore, car Longomore offrait l'embarras du choix en matière de maison de perdition. Je me demandais où l'amiral s'était procuré quelques délassements bien mérités. Le sénateur Faleri était un sybarite trop prudent et trop raffiné pour se compromettre dans de vulgaires bordels. Je l'imaginais plutôt faire ses dévotions dans un sanctuaire de la déesse douce ou de la vieille déesse, se pâmer d'aise en écoutant les chœurs des petits novices et offrir de pieuses donations à des prélats compréhensifs. Quant à Cesarino, j'étais à peu près certain qu'il faisait du gringue aux grasses épouses de ses hôtes et à leurs jolis tendrons d'héritière. Avec sa jeunesse, son rang et ses bonnes manières, il avait toutes les cartes en main pour décharger sans débourser. Ces grands personnages n'étaient pas les seuls à courir la gueuse. Officiers, phalangistes et matelots s'étaient égaillés à terre sitôt que la noblesse sénatoriale avait eu le dos tourné. Seuls restaient les soldats et les marins de quart, avec toute la chiourme consignée. Pour ma part, j'avais pris mes quartiers sous le carrosse de la Frivolezza, dans le placard pompeusement appelé « chambre de l'amiral ». Piètre consolation. Je ne m'étais pas installé dans les choses du sénateur Faleri par folie des grandeurs, mais parce que c'était le seul accès à l'Escandola, la soute privée où dormaient 28 coffres gavés d'or. Vu mon amour pour la marine, il était assez savoureux de me retrouver privé d'escale. Tous ces gentils tripots-là, à portée d'aviron, avec leurs surets à peine coupés, leurs occasions de taper le carton ou de jeter les dés, leurs joyeux combats de coq, leurs hôtesses avenantes. Et voilà que j'étais condamné à rester dans le ventre puant d'une galère. Et tout ça pendant que le reste du commandement batifolait en ville. Vous parler d'une croisière. Cela dit, il était impensable de baisser la garde. La nouvelle que nous apportions la dot ducale nous suivait forcément de Camélogre, si elle ne nous avait pas précédés. De toute façon, j'aurais mis la main au feu que Diletinos Kernitore avait déjà oublié les remontrances de ses nobles collègues, et jasait à tort et à travers dans les demeures bourgeoises et les tavernes malfamées. Toute la ville devait avoir les yeux braqués sur l'escadre au mouillage. Or, avec son mât brisé, la Frivolezza se repérait comme le nez au milieu de la figure. Pas besoin d'être devin pour savoir que des gamins des rues étaient payés par un quarteron de bonnes âmes afin de guetter le moindre mouvement de la galéasse. Des messagers galopaient à bride abattue pour avertir le duc, où qu'il soit, que son or venait d'arriver à bon port. Des usuriers ouvraient leurs livres de compte et calculaient les intérêts cumulés que leur devait le suzerain. Les gros négociants se hâtaient d'acquérir du grain, du drap ou des épices, avant que ce brusque afflux de monnaie ne fasse flamber les prix. Et c'était sans compter le ramassis plus sinistre des renégats et des coupe-jarrets, des vassaux mécontents, embrassant le parti de la duchesse répudiée, tramaient des embûches sur notre route. Des exilés de Choudaliens s'acoquinaient avec les félons bromalois pour financer leurs flibustes. La truanderie des bas quartiers mettait momentanément une sourdine à ses règlements de compte pour monter un coup audacieux. Et qui restait-il pour arrêter tout ce beau monde? Ce pauvre Benvenuto de Gesufal, le cul sur une montagne d'or et le braquemar sur les genoux. Et il avait de quoi se faire des cheveux blancs, Don Benvenuto, avec tout le remue-ménage sur un bateau à l'ancre. En attendant une réfection de fond en comble, le Calfa et ses aides charpentiers fourrageaient toujours à fond de cale pour consolider leur bricolage. Le coq supervisait le ravitaillement en eau douce et en vivres. Des barques accostaient régulièrement, chargées de barils qu'on descendait dans la campagne, la soute qui servait de garde-manger. Or, elle n'était séparée de l'Escandola que par une cloison de planches, que quelques coups de hache auraient suffi à fracasser. Je surveillais donc chaque réapprovisionnement, l'épée au côté, la dague glissée dans les reins et armée de ma plus méchante gueule. Au moins, l'homme que j'avais tué en mer n'était pas mort pour rien. Si ma cote avait définitivement sombré au sein de l'équipage, du moins, cela avait rappelé que j'étais du genre à suriner sans prévenir. Je récoltais force manifestation d'estime. Rictus, crachats et cornes le plus souvent adressés à mes omoplates, mais au moins Les loups de mer y réfléchissaient à deux fois avant de traîner du côté de l'Escordola. En somme, au prix d'un coup de couteau, je m'étais épargné bien des soucis. Parce que la chiourme entassait quand même 240 pulls à sueur et crève la faim, que la proximité de 400 000 florins aurait dû rendre fou de convoitise. Au bout de deux jours, lorsque leur seigneurie daignèrent remettre le pied sur la galéas, l'amiral et l'ambassadeur rapportèrent une moisson de nouvelles. La plus importante concernait le couple ducal. Ganelon et sa sémillante épouse ne se trouvaient pas à Longomore. Ils s'étaient contentés d'envoyer à notre rencontre un certain seigneur de Vernejoul, chevalier de l'hôtel de la Duchesse. Celui-ci avait annoncé à Cesarino que ses maîtres avaient déjà quitté le château de Cher-le-Duc, où Ganelon avait coutume de tenir sa cour d'hiver. Le suzerain venait de lever le banc, qu'il avait convoqué à Carwell, au cœur du duché, où il s'était rendu avec sa maison. Notre voyage n'était donc pas terminé. Cesarino avait refusé, en y mettant les formes, les propositions des prévôts longomorois qui lui avaient offert d'entreposer son trésor au château de Mordune. Il faudrait donc qu'on continue à se coltiner le pactole. Par bonheur, Carwell était arrosé par le Vernobre. Il suffisait de remonter le fleuve pour livrer le magot aux jeunes mariés. Qu'on se figure ma satisfaction. Je n'en avais pas fini avec le canotage. Marin d'eau douce, j'espérais quand même que le roulis serait plus câlin. J'étais surtout soulagé d'apprendre que sa gracieuse Altesse Clarissima avait suivi son puissant époux au milieu des terres. Ça ne réglait rien au problème, mais ça différait un peu nos retrouvailles, dont je me faisais une fête par avance. De son côté, l'amiral avait marchandé la mise en cale sèche de la Frivolezza. La remontée du fleuve ne pourrait donc se faire dans la Galéas, et à mon corps défendant, il fut décidé que la dot ducale serait transférée dans la Sfacciata, où j'embarquerais avec Cesarino Rasicari. Ce changement de pied vis-à-vis du sénateur Scernitore me surprit un peu. Même s'il était plus difficile de disparaître avec 28 coffres sur un cours d'eau qu'en pleine mer, le tour de passe-passe restait très possible, et surtout très tentant, pour peu qu'on dispose de complicité dans le pays. Cesarino et ce bon Celeste Falleri mettaient-ils Dilettino à l'épreuve? La supposition paraissait d'autant plus crédible que l'amiral ne serait pas du voyage. Il resterait à Longomore pour superviser les réparations de la Frivolezza, attendre les derniers navires de l'escadre et surtout préparer l'arrivée du reste de la flotte. En privé, je parvins à glisser à Cesarino qu'il était peu avisé de s'exposer ainsi pour voyager dans le duché. « Oh, je suis tranquille, » me répondit le petit maître. « Vous nous accompagnez, non ?» Je vérifiais une fois de plus, et à mes dépens, qu'il n'y a pire tracas que la confiance des grands. L'opération de transbordement des coffres fut opérée nuitamment. Assez sagement, Celeste Falleri, Dilettino Scernitore et Cesarino Rasicari étaient tombés d'accord pour agir avec discrétion, sans rappeler les soldats qui prenaient du bon temps en ville. Seuls une vingtaine de marins et de phalangistes furent mis dans la confidence. Et j'eus le privilège de me geler les miches au fond d'une barque aux heures les plus froides de la nuit, en faisant la navette entre les deux navires pour convoyer les caisses. Une fois tout l'or à bord de la Sfacciata, je tapai l'incruste dans la chambre du supracomite pour garder l'accès à l'Escandola. Je m'imposais donc en tant que coturne de sa seigneurie Scernitore. Cela aurait pu nous donner l'occasion de partager en toute amitié de vieux souvenirs, comme la soirée où je lui avais tué son mignon Tignola, ou la prise de bec qui, par sa sottise, m'avait permis de m'évader du palais curial. Ces rappels du bon vieux temps n'eurent pas l'heure de lui plaire, et il me céda généreusement la place. En fait, pour mieux me signifier son estime et sa confiance, il se fit remplacer par cette vieille crapule de Bonito Scheggia. Ce qui valut aux spadassins le privilège pas ordinaire de se rouler dans les draps de la haute pendant que les rupins campaient plus modestement sous la banne du carrosse. Le jour du départ, notre joyeuse petite bande fut rejointe par le seigneur de Vernejoul. Le chevalier de l'hôtel de la Duchesse avait pour mission de nous mener jusqu'à ses suzerains. Pour bien marquer la préséance dont ses fonctions l'avaient investi, le bêcheur eut le front de se pointer en retard et d'encombrer les couroirs avec sa valtaille. Cesarino avait catégoriquement refusé d'embarquer ses chevaux. Ce ne fut qu'en apprenant le nom complet du noble personnage, Ollier de L'Aulnay, seigneur de Vernejoul, que je crus comprendre ce qu'il venait faire dans cette galère. Ce blaze ne m'était pas inconnu. Je l'avais déjà entendu dans le cabinet privé du podestat. Il faisait partie de ces gens serviables qui, en échange d'une discrète contrepartie financière, s'étaient laissés convaincre d'incriminer l'ex-duchesse. La position que cet honnête vassal avait acquise dans l'hôtel de la nouvelle duchesse récompensait donc ses bons et loyaux services. Et le noblio avait beau se donner de grands airs, il n'était, comme nous tous, qu'une créature entre les mains de Leonide Ducatore. L'unique occasion que j'eus d'entrer à Longuemort me fut donnée au moment de notre départ. Notre galère s'engageait sur le Vernobre qui traversait la ville. La Sfacciata remonta donc le bras principal du fleuve, seule voie navigable pour un bâtiment aussi imposant, et glissa à la force des avirons au milieu des quartiers. Une fois passés les bicoques et les taudis de Moreuc, l'agglomération dressait une architecture plus serrée et plus imposante, qui, sans échapper au désordre ni à la crasse, affichait malgré tout sa prospérité. De hautes demeures penchaient de tous leurs encorbellements au-dessus des flots. Les treuils qui dépassaient de leurs greniers dominaient le fleuve et permettaient de charger directement des chalands ou des barges. Aussi noirs de suie que leurs voisines, de grands hôtels bâtis en pierre de taille se nichaient de loin en loin entre les maisons à pans de bois. À leurs rangées de petites fenêtres géminées, à leurs façades inclinées par le poids des siècles, aux statues usées de monarques qui ornaient leurs niches, on devinait des édifices anciens, remontant probablement à l'époque du vieux royaume. Il était difficile de distinguer où s'arrêtait le Vernobre et où commençait la ville. Les ponts qui enjambaient les chenaux secondaires avaient été colonisés par d'étroites maisons à colombages. Le flot qui coulait sous ces rues suspendues semblait vomi par la bouche d'un enfer étançonné de pilotis et d'entretoises. Partout dans l'eau glauque s'abîmaient les reflets onduleux des pignons, des enseignes, des cheminées, tant et si bien qu'on avait l'impression de voguer sur une cité engloutie. Ça et là, le fronton ou le dôme d'un temple mirait ses volumes monumentaux dans de mystérieuses profondeurs. Sur ces décors ondoyants, godillait toute une flotte de canots, de plates et de bacs, dérivaient des ordures et même une ou deux bêtes crevées. À la sortie de la ville, la voie d'eau se trouvait enclavée entre des tours massives qui permettaient de barrer le fleuve avec des chaînes en cas de trouble. Passé ces fortifications, le paysage ne changeait guère. Des faubourgs populeux se nichaient contre le rempart et débordaient sur les berges. Il fallait encore remonter le courant quelque temps pour que s'ouvrent les horizons. Si proche de son estuaire, le Vernobre baignait une vaste vallée, à peine inclinée vers son cours, où le regard n'était arrêté par nul relief. Dans ces terres immenses, battait le cœur de Bromel. Même sous cette grisaille de queue d'hiver, malgré la tristesse des arbres nus et des labours bruns, il était évident que nous abordions un pays de cocagne. À perte de vue, cette campagne formait un terroir de prés, de lopins, de vergers et de bosquets, soigneusement quadrillés de haies ou de murets. De loin en loin se mussaient les toits d'un village, se carrait l'enceinte d'un sanctuaire ou d'une ferme forte. Les troupeaux qui pataugeaient sur les rives étaient gras. Des manants procédaient au fumage des champs. De grands charrois et des convois de mules sillonnaient les chemins en direction de Longuemort. Quant au Vernobre, il roulait sur son large dos une foule d'esquifs, gabarres pansus, chalands traînant leur allège, tout à faible tirant d'eau, barcasses chargées d'ordures. C'était à croire que tous les notonniers du duché s'étaient donné le mot pour embouteiller le fleuve. Et pourtant, à cette saison, la navigation présentait des risques. Grossi par la fonte des neiges, le Vernobre sortait de son lit, inondait les halliers et les prés voisins. Ses flots boueux s'élançaient et tourbillonnaient en courant violent. Il charriait non seulement des épaves, mais aussi des trains de bois dangereux pour les embarcations, y compris pour la carène de notre galère. Sur le gaillard avant, les phalangistes criaient sans cesse des mises en garde à destination du timonier, ou échangeaient des insultes avec les bateliers dont les coques de noix nous frôlaient. Si la Chiourme avait pu espérer que ce voyage en eau douce serait une partie de plaisir, elle déchanta très vite. Le Vernobre luttait de toute sa puissance contre notre étrave. On sentait la galère ralentir sur son air avant même que les avirons ne soient retombés à l'eau. Il fallait louvoyer sans cesse pour éviter les bancs de sable à demi inondés et le bouillonnement des hauts fonds. En plus, on se les gelait. Certes, on n'était plus transpercé par les rafales du vent de mer, mais enfin, il ne faisait guère plus chaud dans les terres. Un ciel maussade lâchait de temps en temps sur le pays des petites pluies pénétrantes où pouvait s'égarer un peu de neige fondue. Le fleuve soufflait des buées glaciales qui imbibaient toutes les couches de vêtements et vous donnaient l'onglet. En plus, pas moyen de se réchauffer sur une galère. Le seul vrai foyer du bâtiment se trouvait dans le fougon, la cuisine de plein air, et le coq montrait les dents sitôt qu'on s'en approchait. Quelques brasières échelonnées sur les gaillards avant et arrière ne servaient normalement qu'en cas de combat, afin d'enflammer les traits incendiaires de nos catapultes. Mais matelots et soldats les avaient allumés pour essayer de se réchauffer les mains. Bien sûr, pas le moindre poêle, pas même une malheureuse chaufferette dans la chambre du supracomite. L'intérieur du château arrière était aussi accueillant qu'une glacière. Quand on grelottait trop, Bonito Skeggia et moi, on remontait dans le carrosse pour tendre nos paumes tremblantes au-dessus de trois pauvres braises. Il fallait alors se farcir le seigneur de Vernejoule, que Cesarino endurait avec philosophie et Dilettino avec force rasade. Au premier abord, Ollier de L'Aulnay présentait noblement. Mince et de haute taille, le visage un peu long, le crin poivré sel et la prestance ombrageuse, il devait se croire très décoratif dans l'escorte de la duchesse. D'ailleurs, afin d'honorer son allégeance, à moins qu'il n'ait voulu se montrer gracieux avec nous, il portait un pourpoint et un manteau court à la mode tchoudalienne, taillé dans un samis de grand prix tout brodé de fil d'or. Malheureusement, l'effet était un peu raté. On voyait bien que les cousettes qui lui avaient confectionné son costume ne connaissaient rien aux dernières tendances tchoudaliennes. Les manches du pourpoint étaient lassées selon un usage plus féminin que viril. Les crevés n'étaient pas dans le bon sens et la braguette trop discrète. Quant à la savante composition des teintes, vert bouteille du manteau, vert sapin du chaperon, vert prairie du pourpoint, vert canard des revers et doublures, elle témoignait sans doute d'une recherche raffinée dans une contrée aussi verdoyante que Bromel, mais elle aurait valu une avalanche de bons mots et de compliments ironiques dans les palais de Torresella. À le voir ainsi déguisé, on cernait tout de suite le chevalier de L'Aulnay. Ses prétentions tchoudaliennes devaient exaspérer le parti bromalois de la cour, tout en faisant rire la suite de la duchesse. À moins que ce ne fût l'inverse. Naturellement, le seigneur de Vernejoul ne soupçonnait nullement son ridicule. Il prenait des poses méditatives et pesait chaque mot d'un air pénétré pour vous servir les plus plates des banalités. Brutal avec ses serviteurs, méprisant avec nos matelots, arrogant avec nos phalangistes qu'il traitait dédaigneusement de soudoyer, il essayait de se montrer d'une irréprochable courtoisie avec les deux ambassadeurs. Pourtant, à ses manières un peu condescendantes, il ne parvenait pas à cacher son sentiment de supériorité vis-à-vis de ces jeunes gens qui avaient encore l'âge de servir en tant qu'écuyer. Quant à moi, il m'ignorait la plupart du temps, par embarras plus que par désintérêt, parce qu'il ne savait pas trop dans quelle case me ranger. Soucieux du rang qu'il avait gagné dans l'hôtel de la nouvelle duchesse, Ollier de L'Aulnay s'obstina un moment à nous adresser la parole en tchoudalien. En fait, il pratiquait un sabir incompréhensible, où s'aggloméraient termes tronqués, faux amis et barbarismes, délivrés avec un furieux accent bromalois. La première fois qu'il s'y essaya, je crus qu'il causait une sorte de patois. C'était un vrai supplice de l'entendre ainsi martyriser notre belle langue. Alors que Cesarino, qui avait déjà séjourné dans le duché, parlait couramment le léonien, et que je le baragouinais assez correctement dans son dialecte preux-bourgeois. Les confusions et malentendus qui faisaient ricaner des mauvais esprits dans notre genre, Bonito Skeggia et moi, finirent par froisser le seigneur de Vernejoul. Encouragé par Cesarino, qui soutenait aimablement qu'il était normal de converser dans la langue du pays, Il finit par abandonner le tchoudalien pour en revenir à son idiome. Afin de passer le temps agréablement, prétendit-il, Ollier de L'Aulnay finit par se faire apporter son luth. Il s'agissait d'un très bel instrument, probablement de facture récinienne, dont la table était marquetée de nacre et d'ivoire, tandis que le manche avait le poli de l'ébène. Il paraissait assez déraisonnable d'exposer un théorbe aussi précieux au froid et à l'humidité qui transissait la galère. Mais le seigneur de Vernejoules tenait à nous faire profiter des agréments de sa société. Quand le métier des armes lui en laissait le loisir, nous expliqua-t-il, il prenait plaisir à taquiner la muse, étant de ces esthètes qui se piquaient de poésie. Il composait à l'occasion. Il se proposait donc de nous interpréter quelques-unes de ses ballades. Il s'excusait par avance de la modestie de son talent, tout en adoptant des poses inspirées qui nous laissaient à croire qu'on allait entendre ce qu'on allait entendre. Il prit d'ailleurs son temps pour accorder son instrument, cheville par cheville, avec une méticulosité tout à fait dormitive. À la limite, d'ailleurs, il aurait été préférable qu'il continue indéfiniment. Lorsqu'il plaqua ses premiers accords, on s'entre-regarda tous avec des yeux ronds. Un singe grattant la corde d'un arc n'aurait probablement pas fait mieux. Et le noble seigneur, en forçant un peu sur les basses, chantait comme une casserole. Diletinos Kernitore eut du mal à étouffer ses gloussements, pendant que Cesarino, luttant contre le même fou rire, adressait des mimiques à son collègue pour l'inciter à une diplomatique retenue. Bonito Skeggia applaudissait avec un enthousiasme sarcastique. Quant à moi, cette cacophonie m'instilla un sentiment d'une toute autre nature. Je dois avouer qu'une trouille insidieuse me chatouilla les reins, car j'y voyais plus clair que mes comparses. Je devinais pourquoi ce prodigieux casse-burne avait échoué dans notre galère. La gracieuse duchesse Clarissima l'avait sélectionné avec soin. Aux émissaires de son père chéri, elle avait prodigué la compagnie d'un génie de l'emmerdement. Le seigneur de Vernejoules formait en soi un message, et probablement le hors-d'œuvre des réjouissances que me réservait la garce. La chiourme s'épuisa pendant quelques jours à remonter le Vernobre. Au lendemain de notre départ, les campagnes se firent un peu plus vallonnées, mais toujours aussi prospères. De temps en temps, on découvrait au hasard des chemins des bandes qui n'étaient pas composées de paysans ou de marchands. De petites troupes armées remontaient également vers l'amont. D'après Ollier de L'Aulnay, elles répondaient à la levée du banc ducal. C'était pour nous la première confirmation de l'offensive préparée par Ganelon. Je restais cependant sur mes gardes. Rien ne nous assurait que dans le lot, il n'y avait pas un seigneur brigand ou un vassal en délicatesse avec le suzerain. L'odeur de notre pactole avait de quoi aiguiser bien des appétits. Certes, il paraissait difficile de lancer un abordage depuis ces berges à moitié inondées, mais il aurait suffi qu'une fausse manœuvre nous envoie sur un banc de gravier, et le secours de ces gens de guerre aurait pu être chèrement payé. Vers le milieu de la journée, on entrevit au loin, dressée sur l'horizon onduleux des collines, une couronne de remparts et de tours, toutes fleuronnées de pignons, de cheminées, d'échauguettes et de clochetons. Cesarino nous apprit qu'il s'agissait de Cher-le-Duc, l'un des châteaux où Ganelon avait coutume de séjourner et où il avait accueilli sa nouvelle épouse l'année précédente. La place était splendidement bâtie et fortifiée, mais moins aisée à ravitailler que le Carouel, car distante de quelques lieues du fleuve. Telle était sans doute la raison pour laquelle le duc avait déplacé sa cour. Pendant que le seigneur de Vernejoules glosait fièrement sur les splendeurs de Cher-le-Duc et nous expliquait son dessein d'embellir son propre fief en s'inspirant de la résidence ducale, je contemplais sans enthousiasme ce lointain castel. Si Ganelon collectionnait les bonbonnières dans ce style, je comprenais pourquoi il courait toujours après l'argent. Cette forteresse rhabillée en palais trônait avec majesté sur un vaste damier de jardins, de prés, de vergers, de collines et de plaines. Même de loin, le château respirait l'orgueil de vieille lignée et une poigne teintée de bonne manière. J'avais du mal à m'y représenter Clarissima Ducatore en maîtresse de maison. Mais je ne connaissais que trop l'ambition et le culot de la pimbèche, et j'étais sûr qu'elle avait déjà bien calé son petit fessier dans les coussins de l'ex-duchesse. Je craignais plus que jamais la conclusion du voyage. Pendant que je me morfondais dans la frivolezza, au cours de notre étape à Longomort, j'avais échafaudé 1000 stratagèmes et brodé autant d'excuses pour me dérober aux présentations à la cour. Pas un de ces subterfuges ne tenait la route. Aux yeux de Clarissima comme à ceux de son père, la reculade aurait été un aveu de faiblesse. Cela n'aurait fait qu'envenimer le problème. Je n'avais d'autre issue que d'affronter crânement la haute dame de Bromel, en faisant comme si nos frasques passées n'étaient qu'égarements de jeunesse. Après tout, je n'avais pas pris l'initiative. N'était-ce pas Clarissima qui avait voulu me tirer les vers du nez sur le Macromuopo, qui m'avait chauffé dans le jardin du Palais Ducatore, qui avait trahi son père pour se fourrer chez les Mastigia? À chaque fois, c'était la donzelle qui s'était mise sur mon chemin. Elle savait parfaitement à qui elle se frottait. Franchement, elle avait bien cherché ce qu'elle avait récolté. Mais il ne rimait à rien de me donner bonne conscience. Après tout, par comparaison avec mes activités ordinaires, je n'avais pas grand-chose à me reprocher au sujet de Clarissima Ducatore. Si le podestat ne m'avait pas envoyé lui donner le bonjour, notre petite querelle d'amoureux ne m'aurait pas empêché de dormir sur mes deux oreilles. Malheureusement, peu importait le jugement que je pouvais porter sur mes actions, le hic était ce qu'en pensait la gracieuse duchesse de Bromel. Or, je la connaissais assez pour m'en faire quelque idée. La garce avait naguère cherché le moyen de se venger d'un maître qui, à son gré, ne l'avait pas assez flatté dans son portrait. Compte tenu de notre petit différend, elle allait forcément chercher à me détruire d'une façon ou d'une autre, probablement de la plus perverse. Mon espoir le moins bancal reposait sur le calcul du patron. Si la nouvelle duchesse rencontrait vraiment de l'hostilité au sein de sa cour, peut-être hésiterait-elle à se priver de mes services. Plaisante situation. Mon salut reposait sur l'aigreur du parti rebelle. Avant que nous ne prenions la mer, Cesarino nous avait brossé un tableau assez précis de la noblesse bromaloise, qu'il avait fréquentée au cours de son précédent voyage. D'après lui, le remariage de Ganelon était soutenu par de grands personnages, dont les motivations se révélaient diverses et parfois opaques. Le chancelier Diacecrimen avait été un des artisans de cette union, probablement pour des raisons financières, car il se faisait des cheveux blancs à essayer de combler les dettes ducales. Le connétable de Traval avait également pesé de tout son poids dans cette affaire, en partie par loyauté au duc, en partie par rivalité avec la précédente duchesse, qui à ses yeux exerçait une trop forte influence sur son mari. Anaro de Traval avait d'ailleurs poussé l'animosité jusqu'à vaincre le champion de la dame en combat judiciaire, ce qui avait scellé la perte de l'épouse volage. Enfin, Lanval de Bromel, le fils aîné de Ganelon, avait rallié le parti de sa nouvelle belle-mère. Né d'un premier lit, presque aussitôt orphelin de mère, Lanval avait été écarté de la cour par sa première marâtre, Odéarde de Maginois. La répudiation de l'intrigante lui avait restitué son statut d'héritier. Bien sûr, le monde est ainsi fait qu'il ne faut jamais trop se fier au soutien des grands. Malgré son aînesse et ses qualités chevaleresques, Lanval de Bromel ne représentait pas un appui très solide. D'après Cesarino, il n'avait pas la tête politique. Il passait même pour mélancolique et connaissait des périodes d'abattement qui le rendaient peu propre à succéder à son père. Il se disait à la cour qu'il était surtout l'instrument de son oncle maternel, Angrès de Brocmel. Issu de la branche cadette des Bromel, le comte de Brocmel contrôlait l'une des marches du duché et usait de la force armée comme de ses liens de parenté pour servir ses intérêts. Tant que le remariage de Ganelon favoriserait ses desseins, il pousserait Lanval à défendre Clarissima. Mais il s'était montré hostile à plus d'une reprise au pouvoir ducal, et son ralliement n'avait rien de ferme. Le soutien du connétable de Traval paraissait plus solide. Après tout, compromis dans la répudiation de l'ex-duchesse, il défendait sa position en faisant rempart à la nouvelle tôlière. il n'en avait pas moins un vieux motif de rancune contre le podestat. À Kelsbruck, 10 ans plus tôt, Leonide Ducatore l'avait doublement trahi. D'abord en s'emparant de la ville par surprise, ensuite en la livrant aux Ouromans. Anaro de Traval n'avait échappé que d'un cheveu à la mort au cours de cette vilaine affaire, dans laquelle j'avais également eu le privilège de tremper. Il n'était pas exclu qu'il nous gardait un chien de sa chienne. J'espérais qu'à l'époque, il n'avait eu que dédain pour le double solde de Djezoufal, et qu'il ne le reconnaîtrait pas sous sa livrée de grand argentier. Enfin, pour épicer les choses, le chancelier Diatchekrimen avait beau bénéficier de la confiance du duc, il était également détesté à la cour. D'après Cesarino, la bonne noblesse méprisait ses origines obscures et jalousait les faveurs que le suzerain avait accordées à un clerc de si basse extraction. On murmurait que pour se hisser si haut, l'intrigant avait ensorcelé Ganelon, et que dans le secret de son cabinet, il tramait de subtils maléfices. Et il s'agissait là de ce qu'on appelait à la cour la coterie tchoudalienne. En face conspirait la faction bromaloise. Des officiers disgraciés de l'ancienne duchesse s'agitaient. Le fils cadet du duc, né de son second lit, s'était retiré sur ses terres et avait refusé de paraître au remariage de son père. Le comte de Quimarc se tenait en embuscade, prêt à profiter de la moindre contestation pour rejeter son vassalage. Et même s'il semblait respecter leur hommage au duc, on ne savait trop vers quel parti penchait vraiment le comte de Bellestance, qui possédait des liens de parenté avec la duchesse répudiée, ni le seigneur de Landeviès, qui avait failli entrer en guerre contre le duc après le rapt de sa fille. Dans un sens, on ne pouvait qu'admirer le talent politique de l'artiste qui avait si joliment entortillé ce sac de nœuds. Chapeau bas au podestat, pour avoir mis tant d'animation dans les états de Ganelon en lui offrant la main de sa fille. Mais, en nous envoyant au milieu de cet imbroglio, il risquait fort de nous y empêtrer. D'autant que les querelles de famille n'étaient pas le seul écueil sur lequel on risquait de trébucher. Le sapientissime Sassanos nous avait mis en garde. S'il n'était pas en mesure d'infirmer ou de confirmer la réputation sulfureuse du chancelier Diatchekrimen, en revanche, il nous avait averti que le pays de Bromel passait pour abriter d'anciens pouvoirs, dont il soupçonnait certains de n'être qu'à demi assoupis. Le peuple redoutait une fée des eaux, dont les manifestations épisodiques trahissaient peut-être l'activité d'un convent d'enchanteurs ou de sorcières. Il existait une tradition magique héritée de l'art du grand Sénargin, à laquelle étaient toujours initiés certains érudits. Enfin, le clergé cyclothéiste n'avait jamais complètement réussi à éradiquer le souvenir d'un antique dieu païen, Afghan le Noir, qui possédait encore quelques fidèles dans les forêts et les monts les plus reculés. Il aurait été par trop candide de croire que les coteries de la cour bromaloise se serait privé d'en appeler à tel ou tel de ses ensorceleurs. En deux mots commençant, on déboulait dans un jeu de quilles plein de chausse-trappes factieux, probablement égayés par quelques farces et attrapes ésotériques. On allait marcher sur des œufs. Je m'en réjouissais par avance. Aussi n'étais-je pas spécialement d'humeur guillerette lorsqu'au troisième jour de remontée du fleuve, on toucha au terme de notre voyage.